Il le voit faire miracle sur miracle, il le voit à la transfiguration, il le voit ressusciter des morts, il le voit laver les pieds de Judas la nuit avant sa mort, il le voit ressusciter. Il avait tellement de potentiel, il avait vu Jésus, il avait vécu avec Jésus, il avait vu prier, il avait vu parler aux gens. Et pourtant, dès que son ministère commence, il meurt. Et puis d'un autre côté, il y a l'apôtre Paul, qui lui est un blasphémateur, un homme violent. Quand il partage son témoignage dans l'Épître aux Galates, il dit que le but de sa vie, c'était de détruire l'Église de Dieu. C'est le mot qu'il emploie, détruire. C'est la mettre au ras du sol, détruire complètement. C'était le but de sa vie. C'était le meilleur ennemi de l'Église, comme on pourrait dire. Et pourtant, ça, c'est l'homme que Dieu a choisi d'utiliser. Alors d'un côté, on voit un homme qui a tellement de potentiel et que Dieu n'utilise pas avec sa vie. Et d'un autre, un homme qui est le pire ennemi de l'Église, et c'est cet homme que Dieu choisit d'utiliser. On voit dans la Bible que Dieu, en fait, n'a pas besoin de nous. D'un côté, même si cette place explosait, que tout le monde mourait, Dieu pourrait quand même accomplir sa volonté. C'est ce que disait Jean-Baptiste quand il disait « Je vous dis, même de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Et puis d'un autre côté, par exemple en Apocalypse, on arrive à la fin des temps. On arrive à la fin des temps et on voit chapitre 7. J'ai ma page numéro 2 qui n'existe plus. On voit chapitre 7, verset 19, je pense. Apocalypse. Non, c'est pas là. 19, chapitre 19, pardon, versets 7 et 8. On voit chapitre 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors d'un côté, on voit que Dieu n'a pas besoin des hommes, et puis de l'autre côté, on arrive à la fin des temps. L'épouse est prête, elle est pure. Et qu'est-ce qu'elle est revêtue avec? Elle est revêtue d'une robe qui est pure à cause des œuvres des saints. La beauté de l'Église sanctifiée à la fin des temps provient des œuvres que les saints ont accomplies sur la terre. Alors d'un côté, on voit que Dieu n'a pas besoin des hommes. Et d'un autre, on voit qu'il n'accomplit pas ses œuvres sans utiliser les hommes. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Aujourd'hui, on va regarder dans un passage en Corinthiens, en 2 Corinthiens. Et dans l'Épître aux 2 Corinthiens, on voit que les Corinthiens attaquent Paul sur son autorité. Ils remettent en cause son autorité. Ils demandent « Mais qui crois-tu être pour nous parler et nous donner des ordres? Qui crois-tu être pour prendre autorité sur nous ?» Alors au travers de l'Épître, Paul prend sa défense. Il leur dit « Mais vous savez quoi? Vous avez raison, je suis absolument personne. Mais ça n'a pas d'importance parce que Dieu m'a choisi et m'a donné autorité pour faire ces choses. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas le vase que Dieu utilise. C'est Dieu qui compte. C'est Dieu qui est derrière tout cela. Alors, il utilise des versets. Par exemple, en 2 Corinthiens 4, 7, il dit, mais on a ce trésor. Et je vais juste vous le lire. On a ce trésor. Il parle de l'évangile dans des pots de vase pour que la gloire qui en émane ne soit pas attribuée aux hommes, mais à Dieu. Ou dans des mots plus simples, comme en 2 Corinthiens 13, 10, il dit, lorsque je suis faible, alors je suis fort. Et c'est ce qu'il avait essayé de leur enseigner déjà dans la première épître, lorsqu'il avait dit « Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour convaincre les fortes. » Alors au travers de son épître, Paul explique, il dit « D'accord, je suis rien, je suis absolument rien. Et vous avez parfaitement raison. Mais Dieu m'a appelé dans ma faiblesse pour pouvoir montrer la gloire de l'évangile de Jésus-Christ et m'a donné l'autorité pour accomplir cela. » Alors tournons ensemble, si vous voulez bien avec moi, en 2 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons lire les versets 7 à 10. 2 Corinthiens 12. Et si je pouvais résumer ce message en une phrase, ce serait ceci. L'humilité précède la gloire. Comme la faiblesse précède la force, l'humilité précède la gloire. Et si je pouvais condenser mon message, ce serait pour dire ceci. Lorsque le serviteur de Dieu s'humilie et accepte ses faiblesses, c'est à ce moment-là qu'il dit « Dieu, accomplis au travers de moi tes œuvres à toi, pas les miennes. Et c'est là que le serviteur meurt à lui-même, et c'est là que c'est Christ qui vit en lui, avec la plénitude de sa force divine. Alors, lisons ensemble versets 7 à 12. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Prions ensemble. Père Céleste, on s'approche d'un passage de la Bible, de ton enseignement, et on a hâte d'être bénis, Père Céleste, par tes paroles. Je te prie de nous donner un cœur rempli de foi pour accepter ces paroles et pour grandir dans la foi, que nous puissions être des meilleurs adorateurs de Jésus-Christ à la fin de cette soirée et en grandissant jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, premièrement, on voit que Dieu donne de l'humilité à son serviteur. Trois points dans ce message. Premièrement, il donne de l'humilité. Deuxièmement, il donne la grâce. Et troisièmement, il donne la gloire. Mais premièrement, il humilie son serviteur. Il lui met une écharde dans la chair. Alors, c'est sûr qu'on a tous des écharpes dans la chair, mais Dieu voulait humilier son serviteur. Il voulait lui montrer qu'il avait besoin d'être dépendant de Dieu, qu'il avait besoin d'être à sa bonne position face à Dieu. Alors, il lui met une écharpe dans la chair, il lui montre ses limites, il lui montre que Paul ne peut pas accomplir toutes ces choses tout seul, qu'il a besoin de Dieu. Et alors, il humilie son serviteur. Il lui montre ses limites. Il lui montre qu'il a besoin de Dieu. Et vous savez, le mot humanité, le mot humilité, ça vient de la même racine. Dieu veut que nous soyons humbles devant lui. Dieu veut que nous soyons à notre position juste devant lui. C'est une position d'être dépendant. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, il a envoyé les animaux, il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Il les a renvoyés et depuis le temps, il leur a plus parlé. Mais aux hommes, dès qu'il leur a créé, il leur a donné des instructions, il leur a parlé de l'arbre, il leur a parlé de faire ceci, faire ça, faire cela. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient inférieurs, c'est parce qu'ils avaient été créés pour être dépendants de Dieu, pour écouter Dieu, pour être instruits par Dieu. Vous savez, les autruches, elles n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Les zèbres, elles n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Mais par contre, ça ne prend pas un papa docteur et une maman docteur pour faire un bébé docteur. On a besoin d'instruction, on a besoin de quelque chose qui vient de l'extérieur. Pour nous dire comment faire. C'est pour ça que la Bible nous dit d'être dépendant. Et on est tous familiers avec le psaume 23, n'est-ce pas ? Dieu nous compare à des moutons. Mais à quel point c'est intelligent un mouton ? À quel point un mouton peut-il se débrouiller tout seul ? Alors, la première fois que j'ai prêché ce message, j'avais trouvé une vidéo sur Internet avec des moutons qui rentrent dans leur bergerie. Alors, ils rentrent sous la porte et puis tout d'un coup, il y en a un qui saute et il se prend le mur en pleine face. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'un mouton, c'est pas très intelligent. Il y a pas longtemps, j'entendais dans le journal qu'il y avait 300 moutons qui avaient sauté d'une falaise parce qu'ils étaient effrayés par un chien. Mais mon préféré avec les moutons, c'est que des fois, ils se retournent sur le dos comme les tortues, ils trouvent un centre d'équilibre et puis s'il fait chaud, bah, ils meurent en quelques heures. Les moutons ont besoin d'aide. J'avais un ami qui avait un ranch et qui avait des moutons. Et il me racontait à quel point ces créatures n'étaient pas très intelligentes. Il avait mis un fil électrique autour de son ranch. Et regardait comment les moutons réagissaient. Alors, il y en a qui sautaient dans le mur, dans le fil. Ils reculaient, ils se prenaient un choc, secouaient la tête. Et ils revenaient encore, et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce qu'ils les prennent et les enlèvent. Il avait aussi un petit étang où ils allaient boire. Mais le problème avec les moutons, c'est que comme ils ont de la laine, et la laine, ça absorbe l'eau. Si le mouton tombe dans l'eau, bah, le mouton, il coule. Et le problème, c'est pas que les moutons tombent dans l'eau, mais les moutons sautent dans l'eau. Alors des fois, ils me racontaient, ils prenaient les moutons, ils les sortaient, et tout de suite après, les moutons ressautaient dans l'eau encore. Mais David, lorsqu'il écrivit le psaume 23, il avait été berger, il avait été avec les moutons, il connaissait leurs faiblesses, Ils connaissaient leurs limites, pourtant ils n'avaient aucun problème pour se comparer à un mouton. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient à quel point ils avaient besoin de Dieu. Et on pense à David comme le roi David qui a toutes les richesses, le palais, les conquêtes, mais des fois on oublie que pendant 10 ans, il errait de lieu en lieu sans savoir qu'est-ce qui allait se passer le lendemain. Dépendant de Dieu jour après jour. Pourtant, on lit dans les psaumes, « Je réveillerai l'aurore pour proclamer la fidélité et la bonté de Dieu. » Il avait confiance en Dieu. Il s'est levé le matin disant, « Dieu, je vais être dépendant de toi et je sais parce qu'à cause de ma dépendance, je peux déjà me réjouir. » Combien entre nous avons une bonne raison de se lever le matin ? Combien entre nous sommes heureux de se lever le matin ? Alors, seriez-vous heureux si vous saviez que le président du pays, avec tout l'argent disponible et toutes les armées disponibles, sont à vos trousses ? Et pourtant, David se réjouissait dès le matin. Pourquoi ? Parce qu'il avait appris à dépendre de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il nous donne des écharpes dans la chair pour nous montrer qu'on est limité, pour nous rappeler qu'on a toujours besoin d'un sauveur, qu'on a toujours besoin de revenir au pied de la croix et dire « Dieu, j'ai besoin de toi ». Alors premièrement, on voit que Dieu humilie son serviteur. Et puis après, au verset 8, on voit la réponse de Paul par rapport à ce test. Qu'est-ce qu'il fait ? Il accepte l'humilité par la prière. On voit qu'il prie à Dieu. Il plaide devant Dieu pour agir en sa faveur. Et je pense que la plus grande marque d'humilité pour un croyant, c'est la prière. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est la prière ? C'est de dire, Dieu, accomplis ce que moi, je ne peux pas accomplir. Pardonne ce que moi, je ne peux pas pardonner. Sois loué pour ce que moi, je ne peux pas être loué. La prière, c'est ce qui met Dieu à sa position véritable et qui nous remet à notre position véritable. Alors, vous voulez savoir à quel point votre vie est dépendante de Dieu ? Bah, c'est facile. À quel point est-ce que vous priez ? Par exemple, avant d'avoir des discussions avec des collègues de travail, avant de parler à son conjoint, avec les enfants. Par exemple, combien d'entre vous avez prié d'être béni en venant ici ce soir ? Alors vous savez, on rentre dans le train-train quotidien, et puis des fois, on voit qu'on rate quelque chose, on manque quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on oublie de revenir à Dieu et de dire « Dieu, toi tu agis aujourd'hui, là où je ne peux pas agir. » On a lu dans l'Apocalypse, Dieu veut utiliser l'homme. La beauté de l'épouse à la fin, ça vient des œuvres de l'homme. Mais comment on peut accomplir des œuvres éternelles ? C'est seulement quand on est en relation avec le Dieu éternel. Et ça commence toujours par la prière. Une vie de dépendance est marquée par la prière. Une vie d'humilité est marquée par la prière. J'aime beaucoup la citation d'Edward Payson qui a dit « La prière est la première ». La deuxième et la troisième chose nécessaire à un serviteur de Dieu. Alors, mon frère, prie, prie et prie. On regarde à la vie de Paul. Et cet homme avait un ministère énorme qui continue à avoir un impact sur les gens de nos jours. Et pourquoi ? Parce que Paul avait compris que l'humilité précède la gloire. Il avait compris que s'il voulait voir la plénitude de la puissance de Dieu dans sa vie, il devait s'humilier. Et lorsqu'on lit, quand il partage son cœur à Timothée, il dit que pour lui, il était le pire des pécheurs. Et c'est comme ça qu'il s'approchait du trône de Dieu. Il s'approchait du trône de Dieu comme le pire des pécheurs, un être complètement sans valeur, sans la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que nous devrions aussi nous approcher de Dieu, sachant que sans Dieu, nous ne sommes absolument rien. Et c'est à ce moment-là que l'humilité fait place à la gloire. Et vous savez, on est tous familiers avec Romains 12, 1 qui dit « Je demande mes frères, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai lu ce verset et je me suis dit « Bon, il n'y a pas photo, moi je ne vais pas faire ça. C'est pas possible, offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Bah, je sais pas, il y a d'autres choses à faire quand même, c'est un peu difficile de tout donner comme ça. » Mais c'est vrai que quand Paul écrit ça, il dit je vous demande mes frères, par les compassions de Dieu. » Il ne dit pas par votre propre force, il dit par les compassions de Dieu. Être dépendant de Dieu, ce n'est pas possible avec une force humaine. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin que Dieu nous donne cette force pour être dépendant de lui. Et c'est ce qu'on voit au verset 9. Dieu commence par donner l'humilité et puis continue en donnant la grâce. C'est ce qu'il dit. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu donne la grâce, il dit à Paul, c'est tout ce que tu as besoin, c'est tout ce que tu as besoin, ma grâce. Alors on est tous familiers avec le salut par la grâce seul. on s'approche de la croix et on est sauvé. Mais des fois, on oublie un peu que la vie chrétienne continue de la même manière qu'elle a commencé. Et la grâce qui est donnée lorsqu'on est justifié à la croix, c'est la même grâce qui nous est donnée lorsqu'on est sanctifié. Les règles de la vie chrétienne ne changent pas. La manière dont on rentre dans cette relation avec Dieu ne change pas. On s'approche de la croix, étant dépendant de Dieu, disant « Dieu, pardonne-moi, je ne peux pas me pardonner. Dieu, remplis-moi, je ne peux pas me remplir. » On arrive avec un cœur brisé, avec un cœur humble, en élevant Dieu, en s'abaissant. Mais la vie chrétienne continue exactement de la même manière. C'est pour ça que Pierre disait qu'on doit mettre à mort la chair pour être rendu vivant dans l'esprit. Vous savez, si on n'avait pas l'esprit de Dieu, nos œuvres, elles seraient tout aussi mortes qu'un inconverti. Et si on ne dépend pas de l'esprit de Dieu au jour le jour, nos œuvres sont aussi mortes que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Parce qu'on a autant besoin du Seigneur aujourd'hui qu'on en avait besoin avant d'être sauvé. On a autant besoin du Seigneur aujourd'hui qu'avant que Dieu nous sauve. Parce que sans Dieu, on n'est absolument rien. Sans Dieu, nos œuvres, elles ne peuvent pas continuer et marquer la preuve de l'éternité. Mais la vérité, c'est que souvent, on accomplit pas mal de choses. Et peut-être on est impliqué dans l'église, peut-être on pourvoit pour notre famille. Mais à la fin de la journée, on est fatigué. On est un peu stressé. On est un peu découragé. Et des fois, je pense, c'est parce qu'on oublie de dépendre de Dieu, tout simplement. Jour le jour, prier sans cesse, revenir devant le trône de grâce. Alors la raison pour laquelle Dieu veut qu'on soit dépendant est très simple. C'est qu'il veut que les œuvres qui sortent de nous ne soient pas les nôtres, mais soient les siennes. Il veut que ce qui sort de nous soit quelque chose qui dépasse les œuvres des hommes. C'est pour ça que Paul écrivait, nous avons ce trésor dans des vases de terre pour que la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est pour ça qu'il dit que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Il y a d'autres versants qui disent que la puissance de Dieu est rendue parfaite dans nos faiblesses. Alors vous savez, lorsque Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, il nous l'a envoyé, il nous l'a donné, comme on lit en Jean 3,16. Il nous en a pas partagé un petit morceau, il nous l'a donné entièrement. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il ne nous envoie pas des petits morceaux de sa paix, il ne nous envoie pas des petits morceaux de sa joie. Il nous les donne entièrement, comme il nous a donné Jésus-Christ. Et c'est la même chose avec la puissance qu'il nous donne au travers de sa grâce. Lorsqu'il dit « Je te rends fort au travers de ma grâce », c'est la plénitude de la force de Dieu. Alors d'après vous, il est fort comment Dieu? Est-ce qu'on voit la force de Dieu dans nos vies? Dieu ne partage pas sa force, il nous la donne. Comme il dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Vous savez, on parle de puissance, le mot grec pour puissance c'est dunamis qui a donné le mot dynamite. Alors la dynamite, bon, c'est un peu puissant, ça fait boum, c'est joli. Bon, c'est un peu faible pour représenter la puissance de Dieu, n'est-ce pas? On passe au-dessus, bombe atomique, gros badaboum. On passe à Hiroshima, ça faisait 13 000 tonnes de dynamite qu'ils ont explosé. Pourtant, quand on regarde à cette bombe, des 60 kilos de la bombe, il y a seulement 600 mg qui ont été transformés en énergie d'uranium. 600 mg. Vous voyez cette feuille, on la coupe en deux et c'est le poids de cette feuille. Alors vous imaginez l'énergie qu'il y a dans chaque atome. L'énergie que Dieu a dû avoir pour créer le monde. La Terre, elle pèse. Bon, si je vous l'écrivrais, ça ferait 5, 9 et 20 zéros à côté, en tonnes. Combien d'atomes vous croyez qu'il y a sur la Terre? Et Dieu, il a créé ça comme ça. Vous savez, la puissance que Dieu nous donne, ce n'est pas simplement une puissance pour survivre sur cette Terre. C'est une puissance pour accomplir des choses qui sont fortes. C'est pour accomplir des choses qui dépassent la force humaine. Des choses que Dieu seul peut accomplir. Des choses qui sont surnaturelles. Alors, premièrement, Dieu a donné l'humilité. Paul a répondu par la prière. Deuxièmement, il donne la grâce. Et comment Paul répond? Par la foi. Il accepte ceci. C'est pour ça qu'il dit, Je me glorifie, se glorifie, se réjouit, l'accepte. Donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, verset 9, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul se glorifie dans sa faiblesse parce qu'il sait que lorsqu'il se rend faible, alors il n'a aucune excuse pour se confier en lui. Et c'est là qu'il se confie en Dieu, et c'est là que c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui avec la plénitude de sa puissance divine. Alors, mais bien sûr, ça prend des pas de la foi. Vous savez, des fois, on pense à notre vie, on fait des plans, tout ça. Mais combien de décisions prenons-nous jour après jour, sachant que c'est impossible à force humaine de le faire? À combien de décisions que nous prenons, sachant que c'est absolument impossible à réaliser? Quels sont les pas de la foi que nous faisons? Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour une raison, n'est-ce pas? Quelles sont les choses que les gens peuvent observer dans nos vies et dire ça, c'est seulement possible à cause de la grâce de Dieu, à cause de la puissance du Dieu vivant. Mon frère, Daniel, il avait un ami qui observait les étoiles. Et il pouvait regarder une étoile et savoir en quelle constellation ça faisait partie. Mais un jour, il a dit à mon frère, « Tu sais quoi, j'arrive pas à me réjouir en regardant les étoiles. J'arrive pas à être émerveillé parce que chaque fois que je regarde, tout ce que je vois, c'est des tableaux, c'est des diagrammes. J'arrive plus à être émerveillé. » Et des fois, je pense qu'on fait un peu la même chose avec notre vie chrétienne. On met tout dans des diagrammes, dans des tableaux, c'est bien organisé, mais à la fin de la journée, on oublie d'être émerveillé. On oublie de s'attendre à des choses qui dépassent l'entendement. Et pourtant, c'est pas cela que la Bible nous enseigne. Elle nous enseigne de penser en dehors d'avoir des attentes qui dépassent notre imagination, comme il dit en Éphésiens 3, verset 20-21. Il nous dit de rêver de la vie. Vous savez, Dieu, il a créé le monde entier. On parlait de la puissance pour créer le monde. En hébreu, j'ai compté, il a pris 168 mots pour créer un monde entier. Qu'attendons-nous d'un Dieu qui nous a donné une parole avec combien de millénaires d'histoire? Combien de paroles? Je vous invite à tourner en Jean 14, verset 12. Nous allons lire ensemble Jean 14, verset 12. Vous savez, quand Jésus a marché sur la terre, les gens disaient à son sujet, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Comme en Marc 2, verset 12. « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et pourtant, Jésus dit, verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et le fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Ça vous pas rêver des versets comme ça? Quand Jésus dit, vous allez faire des choses encore plus merveilleuses que moi, ce que j'ai accompli, parce que je m'en vais au Père et je vais intercéder en votre faveur. Ça vous donne pas envie de changer un peu vos plans, de rêver de la vie et d'agrandir vos attentes par rapport à Dieu? Une chose pour laquelle je suis reconnaissant, c'est bien les parents que Dieu m'a donnés. Leur foi, comme on a vu l'été dernier, on a commencé cette campagne, on n'avait absolument pas de moyens financiers. Le comité d'organisation, on était 13, il y avait 10 jeunes. C'était vraiment les choses faibles de ce monde. Et pourtant, à la fin de la campagne, il y a des centaines et des centaines de gens qui ont entendu l'évangile, il y a des gens qui ont été sauvés. On a été dans des endroits qui n'avaient jamais été évangélisés avant. On était sur la place du Capitole. Je me souviens encore, une semaine avant la campagne, il nous manquait encore 10 000 dollars et Dieu a pourvu après avoir prié. Et quand on est faible, c'est alors que nous sommes forts. Et c'est vrai que, en fait, on ne peut pas accomplir de grandes choses pour Dieu si on se pense fort avec nos propres forces. Parce que Dieu va utiliser un cœur qui s'humilie. Seulement un cœur qui s'humilie peut être dépendant de Dieu et refléter la puissance de Dieu. Alors premièrement, on voit que Dieu donne l'humilité. Deuxièmement, on voit qu'il donne la grâce. Puis troisièmement, on voit qu'il donne la gloire. Alors pourquoi la gloire? On voit au verset 10, on retourne dans notre passage, de Corinthiens 12. Au verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, je dis que Dieu partage la gloire dans ce passage à Paul, mais pourquoi? Là, on voit que Paul, il souffre et il se réjouit de la souffrance. Quelle est la connexion entre la souffrance et la gloire de Dieu? Alors, c'est vrai qu'on voit souvent, par exemple, dans la première épître de Pierre, la souffrance et la gloire qui sont toujours connectées, mais pourquoi? C'est quoi la connexion entre la gloire de Dieu et la souffrance? Vous savez, en hébreu, le mot pour gloire, c'est le mot qui vient de l'hébreu qui veut dire poids. La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu, c'est la présence pesante de Dieu. Alors, c'est quoi la présence pesante de Dieu au travers de la souffrance? Alors, je vais vous dire en un mot, c'est le mot désintéressement. Alors souvent, on pense à la gloire de Dieu, Dieu qui dit « je veux toute la gloire, que la gloire me revienne », et on pense à un Dieu qui est égoïste. Et pourtant, la Bible a un message qui est complètement contraire à cela. On voit que Dieu, le Père, quand il crée le monde, il le crée pour le Fils, par le Fils, au travers du Fils. Et le Fils, quand il vient sur la terre, il vit pour le Père, il rend gloire au Père. Et le Saint-Esprit, il est toujours en train de pointer vers Jésus-Christ, pointer vers Dieu le Père, jamais vers lui-même. Et on voit le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est désintéressé, qui cherche le bien des autres, qui est toujours en train de donner. Alors, je vais vous demander, est-ce que c'est possible de se réjouir dans la souffrance quand on est égoïste, quand on cherche notre bien-être? Ben, pas du tout. C'est complètement le contraire. Et là, on voit que Paul se réjouit dans la souffrance. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Il vit pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et là, on voit que Paul, il y avait une force supernaturelle qui agissait dans sa vie. La puissance de Dieu. Et c'était ça la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui lui permettait de faire des choses supernaturelles, de se réjouir dans la souffrance. Les témoignages de Paul dans l'épître aux Corinthiens est toujours... un grand défi pour moi. Parce que vous savez, les Corinthiens, ils avaient quand même des problèmes, n'est-ce pas? Quand on regarde leur vie. Et pourtant, dans tout l'épître, Paul, il dit qu'il se réjouit des Corinthiens, qu'il se glorifie dans les Corinthiens, qu'il est fier des Corinthiens. Paul ne vivait plus pour lui-même, il vivait pour les autres. Et même, il se réjouissait des faiblesses qu'il avait, mais même des faiblesses des autres. Il avait confiance dans les autres. Par exemple, on voit qu'il a implanté l'église de Philippe en une semaine. Et pourtant, quand il leur écrit, il leur dit « Je sais que Dieu qui a commencé l'œuvre en vous va la rendre parfaite. » Il avait la foi dans ce que Dieu pouvait accomplir en lui, mais aussi dans les autres. Il avait un cœur désintéressé. Et c'est vrai que souvent, nous, on fait un peu le contraire. On est un peu comme des mauvais supporters. On va dans le stade et quand notre équipe gagne, on fait « Ouais, on gagne !» Et quand ils perdent, on fait « Ouais, ils perdent !» Pourtant, entre chrétiens, on devrait être les premiers à s'entourer les uns les autres dans nos faiblesses, au lieu de se juger, de dire « Ah, lui, il ne fait pas ça. » Mais au contraire, prier les uns pour les autres. Et, par exemple, quand on va à l'église, s'il y a un groupe de louanges qui n'est pas aussi fort, ben, on devrait être les premiers à chanter plus fort pour les encourager. Et si notre pasteur est un peu fatigué, ben, on devrait redoubler d'efforts pour prier pour lui, pour l'encourager, pour que Dieu le supporte, au lieu de zoomer, se mettre à l'extérieur et de juger. Dieu nous appelle à vivre avec un cœur désintéressé. Et bien sûr, c'est supernaturel. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un cœur humble. La Bible est pleine de paradoxes. Et l'une d'entre elles, c'est que Dieu est fort et nous, on est faibles. Et pourtant, on a été créés à l'image de Dieu. Mais la raison pour ça, c'est simple. C'est que Dieu voulait qu'on porte son image en plénitude. Et ça, c'est seulement possible si Dieu agit au travers de nous. Et c'est là que la dépendance avec Dieu prend toute sa gloire. Vous savez, la chrétienté, ça n'a jamais été une religion populaire. Depuis le début, ça n'a jamais été populaire. Pourquoi? Bon, on voit, Paul, il s'humilie, et à la fin, il finit dans la souffrance. Il s'abaisse, puis à la fin, il est encore plus abaissé. C'est pas populaire comme message. Et pourtant, lorsqu'on voit que Paul s'abaisse de plus en plus, plus il s'abaisse, et plus Dieu est élevé. Et plus la gloire de Dieu, la présence pesante de Dieu, est à l'œuvre en Paul. Et dans les gens qui peuvent le regarder. Alors vous savez, souvent, on parle de messages comme ce matin, de renier à nous-mêmes, sacrifice vivant, et on pense à... Mais où est-ce que cela va mener à la gloire? Comment cette faiblesse peut mener à la gloire? Et en fait, c'est pas ça qui mène à la gloire. Le reniement, c'est la gloire. Pourquoi? Parce que c'est impossible sans l'aide de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, ben c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est plus nous. Et c'est là qu'on voit des choses qui sont complètement formidables. Prions ensemble. Père Céleste, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre comment tu agis, comment tu fais de nous des êtres si faibles pour pouvoir montrer ta force aux nations. Et je pense à la verge de Moïse, qui était un objet, un morceau de bâton, et que tu as utilisé pour ouvrir une mer, pour faire des miracles, pour gagner des batailles. Et nous, Père Céleste, tu nous as fait à ton image. Combien plus tu peux nous utiliser, encore plus que ce bâton, pour faire des choses entre tes mains qui peuvent être merveilleuses. On te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner des cœurs humbles, qui acceptons nos écharpes, qui acceptons nos faiblesses et qui nous confions en toi pour pouvoir être forts en toi et pas en nous-mêmes. Que ta grâce soit abondante dans nos vies pour que nous puissions refléter la plénitude de ton image et que les gens puissent dire « Nous n'avons jamais rien vu de pareil, comme au jour de Jésus-Christ. » On te prie, Père Céleste, que ta lumière puisse briller sur nos faces. Au nom de Jésus-Christ. Amen.